en Ukraine pour ce 18-20 spécial en direct de Kiev, Fabienne Saintès.
Merci beaucoup Damien. Nous sommes le 23 février 2026. Il y a 4 ans, à cette heure-ci, les Ukrainiens ne savaient pas qu'ils seraient réveillés le lendemain par le début de l'invasion à grande échelle de la Russie depuis l'Ukraine. Tiens, au prix d'efforts considérables, nous sommes à Kiev pour 2 heures. Bienvenue dans ce 18-20 spécial.
Europe looks lost.
We still need to do more for Ukraine.
It's a bloodbath, and that's what I want to stop.
4 years of all-out war.
France Inter.
Слава нашим захисникам.
Le 18-20 en direct de Kiev. Fabienne Saintès.
Слава Україні.
C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Moi, je suis d'accord de monter au 7e étage à pied. Je suis d'accord aux coupures d'électricité. Mais moi, je ne suis pas vivre dans la société russe où il n'y a pas de liberté. La liberté, pour moi, c'est sur la première place.
Elle s'appelle Lydia, cette femme que vous entendrez plus longuement dans cette première heure. On voulait vous en donner un avant-goût parce qu'elle dit à la fois la ténacité des Ukrainiens et la difficulté aussi de ce qu'ils traversent là, dans cette quatrième année. Bonsoir Maureen Mercier.
Bonsoir.
Maureen, tu es notre correspondante ici depuis 4 ans. Tu es arrivée ici juste après l'invasion à grande échelle. C'est le terme qu'on va entendre dans la bouche des Ukrainiens ce soir et pendant ces 2 heures. Et c'est avec toi que nous irons d'étape en étape dans la société ukrainienne, comment elle tient, par quel bout elle flanche parfois et comment cette guerre l'a transformée. Toi, tu vis ici au milieu des Ukrainiens dans cette guerre. Et peut-être d'ailleurs, Maureen, que tu sais déjà ce qu'on doit comprendre de l'Ukraine après 4 ans, ce qu'on ne doit pas rater. C'est peut-être d'ailleurs même la raison qui te fait rester, toi.
Je pense que de fait, la situation ici n'a jamais été aussi intéressante, mais aussi, malheureusement, parce qu'elle n'a jamais été aussi inquiétante. Alors, je veux pas tout de suite plomber l'atmosphère. L'Ukraine résiste, oui, mais à quel prix ? Surtout, elle n'a pas d'autre choix que de tenter de résister. Les négociations, on le sait, piétinent. Depuis 1 an, elles ne mènent à rien. L'Ukraine a face à elle cette Russie qui attaque de plus en plus durement les villes. L'armée russe tue un plus grand nombre de civils aussi. L'armée russe a renforcé son armée. Elle l'a aussi modernisée. Imaginez, hein, 4 ans de bras de fer, ce combat totalement inégal, ce mouvement de bascule, Trump de retour à la Maison Blanche qui penche nettement côté russe. Devant eux, les Ukrainiens, là maintenant, ils ont un océan d'incertitudes.
Alors, par où commencer ? Quelle porte ouvrir d'abord pour raconter où est l'Ukraine après 4 ans ? Cette société qui ressemble tellement à la nôtre. On s'est dit, Maureen, qu'on allait commencer très simplement, parce que c'est ce dont tout le monde parle. Commencer par cette nouvelle arme utilisée par les Russes. Et cette arme, c'est le froid. Les Russes pilonnent les installations électriques. Le but, c'est de rendre la guerre insupportable. Y compris d'ailleurs, pour ceux qui sont loin du front, les drones ou les missiles tombent très près. Les alertes, c'est tout le temps. Et ces 10 derniers jours, c'est vrai qu'il a fait très froid, ça va mieux maintenant, hein. D'ailleurs au moment où on se parle, il pleut dehors. Mais la vie de chacun désormais dépend des heures de coupure et de retour du courant ou de l'eau chaude. Et puisque c'est toi qui nous guide, c'est avec toi que nous allons sur l'autre rive, la plus touchée par les coupures, surtout de chauffage. Donc Maureen, est-ce que tu peux nous décrire tout simplement où nous sommes ? C'est quel quartier là ?
On est rive gauche. La rive gauche de Kiev a vraiment plus souffert encore que le restant des quartiers de la capitale cet hiver. Et souffre encore d'ailleurs. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est des barres d'immeubles. Il y a des centaines et des centaines d'appartements qui sont sans chauffage. Alors maintenant, j'ai presque envie de dire que ça va, puisqu'il fait moins 5 degrés. Donc c'est quasiment les Caraïbes, étant donné ce qu'on a vécu. C'est de loin l'hiver le plus rude des 4 dernières années. Il y a eu des vagues à moins 20 degrés. Quand il fait moins 20 degrés, que t'as pas de chauffage, les 2 premiers jours ça va, le 3e jour ça va plus du tout, le 4e jour il fait 2 degrés et puis après ton moral s'effrite.
Alors là, sur la dalle, hein, j'imagine que c'est comme ça que ça s'appelle, donc en bas des immeubles, il y a un groupe électrogène qui est en route sur un gros camion et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentes, 8 grandes tentes militaires qui ont été installées pour ça. Au moins il fait chaud dans la tente. On peut boire du café chaud, on peut manger, on peut faire tout ça. Et on peut se retrouver aussi d'ailleurs dans le quartier.
Oui, premier point, c'est le chauffage. Il y a vraiment des gens que... Enfin, moi, je les ai vus arriver littéralement frigorifiés, quoi. Donc des gens qui viennent se réchauffer et puis effectivement, se serrer les coudes. Ça, ils m'ont beaucoup raconté. Si on se met dans ces tentes-là, très vite, tu te rends compte que les gens-là sont aussi pour l'aspect social, quoi. Puisque ça isole, hein, ouais. D'être coincé dans son appartement, pas d'ascenseur, dans le froid, etc. On est terriblement seul. Donc ces tentes-là, je pense qu'elles servent aussi un peu de place du village et d'essayer de faire en sorte que l'hiver se passe, quoi.
Place du village, c'est vraiment le bon mot. Et d'ailleurs, on va y aller. Il y a évidemment surtout des vieilles dames, hein, parce qu'on est en tout début d'après-midi. Donc ceux qui travaillent sont évidemment au boulot, mais les vieilles dames sont là. Et on va aller les rencontrer d'ailleurs, à la fois pour se retrouver effectivement et passer un petit moment au chaud.
Très peu d'électricité, très peu d'électricité, pas d'eau chaude. Ici, très bien. Ici, on nous traite très bien. On a un peu de chauffage ici, on est bien, tout le monde est très gentil. À la maison, rien. Un peu d'électricité, mais très peu. Dès qu'on a quelques minutes d'électricité, on fait chauffer de l'eau dans les casseroles pour se laver. Sinon, rien. L'eau chaude, ça ne reviendra pas. On espère même plus la récupérer. Donc, on attend, on patiente. Ça, c'est son avis à elle. Moi, j'espère quand même. Mais c'est clair aussi qu'on n'a pas assez d'électricité pour les deux. Donc, c'est comme si on choisissait entre le chauffage et l'eau chaude. Bah, bien sûr, on choisit le chauffage. Si c'est possible, au moins, de récupérer ça, on est d'accord. On ne peut pas se faire à manger parce que tout est électrique. Et donc, c'est ça le plus compliqué. Et on ne peut pas se laver aussi. Donc, on se lave avec des lingettes. Mais sinon, ça, c'est tout ça. Ce n'est pas grave. Il faut juste attendre et... Bah, ça n'a pas d'importance. Vraiment, ce qui est important, c'est la fin de guerre.
Et la fin de la guerre, vous la voyez, vous, la fin de la guerre ?
Ça dépend pas de moi, malheureusement. Moi, j'aimerais trop que la guerre se termine le plus vite possible, mais c'est la Russie n'est pas du même avis. On voit très bien qu'ils ne veulent pas la fin. Heureusement qu'on a de l'aide de l'Union européenne. On attend, mais ça ne dépend pas de nous, encore une fois. On a déjà survécu à moins 20 quand il faisait 5 degrés à la maison. Donc, je peux quand même dire qu'on est une nation très très forte et très résistante. Si on a résisté à ces mois d'hiver très sévères, il faisait très froid. On mettait tout ce qu'on avait, on se couvrait, on prenait des bouteilles avec de l'eau chaude dans le lit. Mais on a résisté. Donc. Le plus important, c'est s'il vous plaît, ne nous oubliez pas, ne nous laissez pas seuls.
Alors Maureen, juste en un mot, des lieux comme ça, ça s'appelle d'ailleurs des lieux d'invincibilité. Il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a très peu, parce que même lorsqu'il fait 3 ou 4 degrés dans leurs appartements, les habitants vont résister à coups de bouillotte qu'ils remplissent d'eau chaude. Ça reste moins éprouvant que de vous agglutiner dans une tente. Vous l'imaginez bien, encore plus les nuits de bombardement.
Alors, ce qu'on n'a pas raté surtout dans ce que nous dit Valentine, c'est continuer à nous aider. Valentine, c'est le nom de cette dame qu'on a entendue. Ce que je comprends dans le sous-texte, c'est... vous aimez bien penser qu'on est fort, vous aimez bien dire qu'on est héroïque, et c'est vrai qu'on est fort, mais on ne tiendra pas indéfiniment comme ça.
Mais moi, je leur dis souvent, vous êtes courageux, et puis de suite, ils me répliquent, non, on n'est pas courageux. En fait, on n'a pas le choix, et c'est très différent. Ça a un nom, ça s'appelle de la survie, tout simplement. Et puis, je pense que derrière le « continuer à nous aider », il y a de la complexité. On se met à leur place. L'aide européenne est d'autant plus vitale que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais les faits, ils sont là. Cette aide ne suffit pas. Je pense que très souvent, ils auraient envie de nous hurler. On a vraiment besoin de vous. Réveillez-vous enfin. Mais voilà, vous ne criez pas, surtout pas contre les derniers qui vous viennent en aide. Mais moi, je la sens véritablement. Il y a une vraie crainte d'être abandonné complètement.
Et ce qu'on sent dans la fatigue de Valentine, c'est le sentiment d'une guerre sans fin. Et peut-être, Maureen, qu'on peut mettre les gens qui nous écoutent dans la confidence de la fabrication d'une émission comme celle-là. Beaucoup de gens qu'on connaît, beaucoup de gens que tu connais, qui sont tes amis, qu'on a connus combatifs, nous disent « je viendrai si j'ai le courage ». Et la traduction, c'est « je viendrai pas parce que j'ai pas le moral en ». Fait.
Oui, je vais peut-être parler de moi, si tu me le permets, mais juste pour tenter de mieux parler des Ukrainiens. Moi, j'ai choisi d'être là, on le sait, je peux partir à tout moment, je suis vraiment dans du coton. Mais cet hiver, très franchement, on a tous, à plusieurs reprises, pleuré, d'épuisement, littéralement. Parce que quand tout ce que vous faites est ralenti par le manque d'électricité, que vous vivez dans un appartement à 7 degrés, c'est compliqué. C'est compliqué aussi d'imaginer le dirigeant du pays d'à côté vous obliger à faire une lessive à 3 heures du matin alors que vous êtes épuisé, vous ne voyez plus les mains. C'est compliqué de devoir gérer ces vies sans électricité. Les Ukrainiens, ils sont vraiment à fleur de peau. Mais en ville, un peu eux, comme on vient de l'entendre, ils ne vont jamais se plaindre parce qu'ils pensent à tous ceux qui subissent nettement plus difficile. Ils pensent aux soldats dans les tranchées. Ils ont ces personnes-là en tête. Mais je le vois, oui, partout autour de moi, les gens flanchent. Ils se ressaisissent, puis ils flanchent encore. Vous savez ce que c'est que d'être dans vos réserves, d'aller puiser Là, on est vraiment dans l'étape d'après.
Alors, tenir et continuer à faire ce qu'on a toujours fait quand même. Lydia, que nous avons entendu brièvement à l'ouverture de l'émission tout à l'heure, on la connaissait un peu, Lydia, on l'a rencontrée il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, elle était déjà très combative. Elle travaille à l'université où elle donne des cours de français. Elle a 2 fils qui sont soldats tous les 2. Et ses soirées, elle les passe à fabriquer des tenues de camouflage, ses journées à enseigner. Et notre rendez-vous à la fac ne s'est pas déroulé comme on le voulait nous. En revanche, pour elle, ça a été une journée très ordinaire. Bon, il y a eu une alerte, donc évidemment tout le monde est obligé de descendre aux abris, surtout que là, à l'université, il y a des enfants, en fait, qui sont venus pour une visite. Évidemment, des alertes comme ça, c'est régulier, donc c'est évidemment très calme. On attend simplement le quart d'heure, en fait, que l'alerte soit levée. J'espère surtout qu'on va réussir à retrouver notre interlocutrice, Lydia, qui est en train d'essayer de descendre, elle aussi.
Ça me fait plaisir de vous voir.
Donc on peut trouver un petit coin. Oui. Donc on y va.
C'est pas si bien.
Parfait.
C'est comme ça la vie en Ukraine.
C'est
intéressant.
C'est bien comme ça.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre vie?
Tout nous intéresse dans votre vie. On a l'impression là ces derniers mois et surtout avec l'hiver qu'on traverse que c'est comme si la guerre avait rattrapé tout le pays en fait, y compris la société civile, y compris les gens qui essayent encore d'avoir une vie normale, que désormais parce qu'il y a le froid, parce que les installations électriques ont été bombardées, parce qu'il y a des alertes aujourd'hui au centre de Kiev. Est-ce que vous avez le sentiment que la guerre est plus présente encore en cette 4e année?
Beaucoup plus présente, je pense, parce que les Russes ont changé de stratégie. Maintenant, ce sont les civils qui sont ciblés. Pas seulement à cause des bombardements des infrastructures électriques, énergétiques, mais aussi il y a plein de drones, de Shahed, qui ciblent les civils. À Kiev aussi, partout, la vie est devenue beaucoup plus difficile. Ben, c'est surtout peut-être à cause de l'épuisement, de lassitude, parce que la première année de la guerre, tout le monde pensait que ça allait se terminer assez vite. Même en 2023, on avait beaucoup d'espoir. Mais bon, notre offensive n'a pas eu de succès.
Donc ça veut dire qu'on croit de moins en moins en une victoire ou pas?
Ça dépend des personnes, pas moi. Mais bien sûr que moi je vois parmi mes connaissances, il y a des personnes qui sont épuisées, qui voudraient bien la paix entre guillemets. Parce que pour moi la paix, comme Poutine la présente, c'est capitulation.
C'est quoi une victoire, Lydia, aujourd'hui? Ce serait quoi la victoire?
Ça a récupéré notre territoire. Donc il faut que les Russes partent parce que les personnes qui comprennent la mentalité russe, je pense qu'elles ne peuvent pas baisser les bras. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Moi, je suis d'accord de monter au 7e étage à pied. Je suis d'accord aux coupures d'électricité, de descendre à l'abri avec mes étudiants. Mais moi, je ne suis pas vivre dans la société russe où il n'y a pas de liberté. La liberté, pour moi, c'est sur la première place. Moi, je préfère mourir que vivre dans la société qu'on avait même à l'époque soviétique. Il n'y avait pas de liberté, on ne pouvait pas s'exprimer. Et je ne veux pas revivre tout ça. Et je ne veux pas surtout que mes enfants revivent ce que j'ai vécu à l'époque soviétique.
Voilà. Voilà, ça veut dire que l'alerte est finie. On va pouvoir remonter. Et vous vivez ça quoi? Tous les jours.
Ouais. Tous les jours. Pour l'enseignement, c'est catastrophique parce qu'on perd énormément de temps. On est obligé de descendre dans cet abri. On peut continuer, mais c'est la perte du temps.
la crainte de vivre sous les drapeaux russes, ça on l'a bien entendu, c'est quelque chose qu'on va retrouver au cours de cette émission, c'est très très vivace, évidemment les Ukrainiens ils ont de la mémoire, hein, et comme le dit Lydia, ben, ça fait monter les escaliers. Mais 4 ans de guerre, Maureen, et il faut bien passer par là, c'est aussi compter les morts, voir revenir les blessés, compter aussi les mutilés. Les attaques de drones, elle en parlait Lydia à l'instant, par centaines, multipliées par 5 cette année, 55 000 lancées par la Russie, ça donne presque d'ailleurs l'impression qu'une autre guerre s'est ouverte ces derniers mois, presque une nouvelle guerre en fait, non ?
Oui, en 4 ans, on est passé d'une guerre d'artillerie, de chars, quasi classique, à une guerre ultra technologique. Ces drones FPV, ils sont utilisés sur les plus de 1000 km de front. Ces drones très bon marché, très meurtriers, pullulent. Vous êtes dans une tranchée, le drone vous localise et lâche une grenade. Les soldats dans le Donbass me le décrivent ainsi. Il y a encore 3 ans, vous pouviez aller chercher un camarade blessé très proche de la ligne zéro. Aujourd'hui, ils appellent la zone de mort certaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, toute cette bande d'au moins 8 kilomètres depuis la ligne zéro. Tout ce qui pénètre dans cette bande de 8 kilomètres est visé par ces drones russes. Non seulement ces drones tuent, mutilent, mais lorsque vous êtes blessé sur une position, pardon, mais c'est la réalité, vous avez tous les risques d'y agoniser parce que vos compagnons ne parviennent plus à vous chercher pour vous traîner jusqu'à un point de stabilisation à cause de ces drones, justement.
Alors les chiffres, ils sont évidemment impossibles à connaître, hein, très approximatifs, les morts, les blessés, Maureen.
Ni Kiev ni Moscou ne donnent ces chiffres. Au total, 1,8 million de soldats morts, disparus ou blessés, selon un rapport d'un think tank américain, ainsi que plusieurs autres études. La Russie compterait 2 fois plus de victimes. Mais attention, la population russe est 3 fois plus importante que l'ukrainienne, donc démographiquement, les pertes sont plus violentes pour l'Ukraine. Donc, on entend souvent dire que la Russie ne parvient pas à envahir, comme elle l'entendait, l'Ukraine. Mais il n'y a pas que les kilomètres avalés qui comptent dans une guerre. Au contraire, ce qui se passe ici, c'est que la Russie happe vers la ligne de front, parce qu'il faut bien défendre le pays, des milliers d'Ukrainiens, hier civils, soldats, aujourd'hui, qui vont mourir à essayer de retenir ce rouleau compresseur russe.
Alors on va passer un peu de temps avec ces mutilés de guerre. On ampute beaucoup dans cette guerre. Là où nous sommes, c'est un centre privé. Ça veut dire qu'il vit des dons, un centre de réhabilitation. Il y a une 40aine de places, à peine plus. Il s'appelle Titanovi. Et qu'est-ce qu'on demande à un jeune homme de 33 ans qui a perdu ses deux jambes et son bras gauche, ou à un autre, comme tu le décrivais, qui a été amputé parce que les évacuations de blessés sont très difficiles et trop lentes?
Moi, je peux dire qu'il y a de plus en plus de monde et que les blessures sont devenues plus graves. Avant, il y avait plus d'éclats d'obus, par exemple. Et là, maintenant, c'est des amputations presque tous les membres, 2 membres, 3 membres. Ça dépend. Donc, les blessures sont devenues plus graves.
Donc là, on va entrer dans une salle de gym. Il y a des soldats qui sont en train de faire des exercices. Évidemment, beaucoup de jeunes gens.
Мене звати Григорій, мені 33 роки.
Je m'appelle Grégory, j'ai 33 ans.
Так, звісно, віз пілотів на позицію, і як повертався вже назад, мене...
Je conduisais les opérateurs sur leur poste, et puis quand je retournais, un drone m'a rattrapé et percuté la portière du côté conducteur. Du coup, ma jambe gauche était touchée par des débris et ma jambe droite était gravement blessée. On a mis le garrot et on l'a maintenu beaucoup trop longtemps parce que l'évacuation était très très difficile aussi à cause de ma blessure. Et du coup, j'ai eu cette amputation.
Ça fait 4 ans que cette guerre a commencé. Est-ce que vous imaginiez que le pays en serait encore là au bout de 4 ans et que ce serait ça la situation de l'Ukraine au bout de 4 ans? Quand vous vous engagez en 2022, qu'est-ce que vous avez comme perspective? Qu'est-ce que vous avez en tête?
Au début, j'étais choquée. J'étais choquée même par le début de cette grande invasion. Je ne pouvais bien sûr pas imaginer qu'elle serait aussi longue.
La seule chose que je savais dès le début jusqu'à maintenant, c'est que les Russes n'y arriveront pas, que l'Ukraine tiendrait et qu'on n'allait pas se rendre. Parce que je connais notre peuple, je vois comment sont nos militaires, nos civils, et ils ne vont pas rendre leur chez eux. On voit que la guerre ne s'arrête pas, donc je vais me battre jusqu'au bout.
Ça veut dire que vous voulez retourner au front, c'est ça que ça veut dire?
C'est possible, je n'exclus pas cette possibilité. J'ai subi une amputation, oui, mais elle n'est pas critique. J'en connais d'autres, mes camarades qui ont eu les mêmes amputations,
courent,
se battent, ils accomplissent les tâches, des missions de combat.
Et
même si on ne me laisse pas retourner sur la ligne de front elle-même, moi je peux peut-être servir à l'arrière et accomplir des missions qui pourront rapprocher notre victoire.
Maureen, retourner au front, nous dit ce jeune homme qui a été amputé quand même. Hein. Retourner au front pour la patrie, mais aussi parce qu'on cherche sa place peut-être, non, dans la société ukrainienne quand on revient.
Oui, c'est compliqué de passer des tranchées, de cet enfer à la vie civile. Encore plus lorsque la guerre se poursuit, comme ici. Le sentiment qu'ils ont aussi, je pense, c'est qu'ils abandonnent leurs compagnons dans les tranchées alors qu'ils savent mieux que personne combien ils ont besoin de renforts.
On croise beaucoup de gens avec des prothèses ici, dans la rue, même à Kiev, mais il y a aussi les blessures invisibles, Maureen. Il y a peut-être même surtout les blessures invisibles.
Oui, je pense notamment au stress post-traumatique, ces douleurs qui sont parfois pires, effectivement, que les douleurs physiques. Ça engendre des divorces, des familles qui implosent, des violences aussi. Très souvent, les Ukrainiens, ils me disent, après la guerre, on aura cette autre guerre à mener. Comment réintégrer des centaines de milliers de soldats qui vont revenir du front cassés? Le nombre de psychologues, etc., qu'il faudra aussi impliquer. Alors évidemment, il est trop tôt pour y penser. Et pourtant, les Ukrainiens craignent vraiment d'ores et déjà cet après.
Alors, il y a un autre impensé qui est lié d'ailleurs hein, et dont on ne parle pas facilement ici, c'est la mobilisation. Chaque jeune homme a dans la tête qu'il peut être mobilisé à n'importe quel moment, Maureen.
Oui, c'est simple. Vous êtes un homme, vous avez entre 25 et 60 ans. À tout moment, l'armée peut vous appeler. Formation trop rapide et bancale, on me le dit constamment ici. Et vous voilà soldat. Souvent pas assez formé aussi parce que bah, y a urgence, évidemment. Et puis, les soldats me le disent, vous dépendez véritablement de votre commandement et vous ne le choisissez pas. Alors, bah, y a le pire comme le meilleur qui se côtoie. Et si vous tombez sur le pire, bah là vous pouvez très clairement vous transformer en chair à canon. Ça fait vraiment partie de la réalité de la guerre. Et puis il y a cette pression aussi. D'abord parce qu'ici, bah, tout le monde a des membres de sa famille ou des proches sur le front. Tout le monde sait le manque de soldats. Vous êtes un homme, vous avez parfois mauvaise conscience de ne pas vous engager. Et puis vous êtes aussi constamment matraqué. Je vous donne un simple exemple, hein, mais sur mon téléphone ukrainien, bah, plusieurs fois par jour, je reçois ces SMS. Je peux vous lire un des derniers SMS, il dit « Vous n'avez pas choisi cette guerre, mais vous pouvez choisir votre place dans la défense de l'Ukraine. L'armée recrute des dronistes, salaire à partir de 50 000 grivnias. » Voilà, ça représente un peu moins de 1 000 euros.
Et c'est beaucoup d'argent pour l'Ukraine ou pas?
C'est moins que ce que reçoivent les soldats russes. Et non, cette somme-là, c'est compliqué de vivre avec une famille, notamment, par exemple, dans la capitale.
Alors, on a essayé, hein, Maureen, d'entendre s'exprimer cette peur-là, cette peur de partir qui est bien naturelle. Hein, la peur, c'est un sentiment raisonnable en temps de guerre. On s'est retrouvés hier matin, dimanche, devant un lac gelé, devant une petite fête organisée. On est à quelques kilomètres d'ici seulement. Une fête organisée par un DJ, en plein air, évidemment. Alors on danse toujours en temps de guerre, hein, ça c'est presque universel, mais ce qui est fou, et c'est la première chose que j'ai remarqué moi, c'est qu'en levant la tête, au-dessus des baffles, il y a cet immense panneau qui regarde lui aussi les danseurs et qui dit « Engagez-vous dans l'armée ». Donc on est entré, évidemment c'est ça la question qu'on a posée au DJ.
Я відчув
J'ai senti que je pouvais donner quelque chose aux gens tout à fait gratuitement. Leur offrir une certaine émotion, leur offrir, comme on me l'a dit un jour, une bouffée d'air frais.
Je n'ai
pas pu m'empêcher de remarquer que juste derrière vous, il y a une affiche de recrutement dans l'armée. Et il y a ce côté vertigineux, en fait, parce que tous ces jeunes gens qui sont là devant vous et qui dansent, peut-être que dans deux semaines, un mois, deux mois, ils seront sur le front, ils seront à la guerre. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser à ça ?
On en parle pendant nos représentations. On doit vivre ici et maintenant. Demain, notre vie peut changer. Je peux être mobilisé et partir moi aussi au combat. Beaucoup de militaires nous écrivent pour nous dire « C'est super, c'est génial, tenez bon. Quand tout sera fini, on viendra avec toute la brigade et on se détendra tous ensemble. » Après 4 ans de guerre, il n'y a plus de peur. J'ai beaucoup d'amis militaires. Et malheureusement, j'ai aussi des amis tombés au combat. Aujourd'hui, je n'ai plus peur pour moi, mais seulement pour mes amis et pour mes proches.
Merci beaucoup. Thank you. On va s'approcher de quelques familles. Il y a ce monsieur ici qui est venu avec sa fille, vraisemblablement, et sa femme.
Pour des raisons de santé, j'ai la possibilité de ne pas être mobilisé. J'ai même la possibilité de quitter le pays. J'ai aucune interdiction. J'ai décidé que nous restions. Bien sûr, chaque année qui passe, je me pose la question. Est-ce justifié d'exposer un enfant à ce risque, même à Kiev, qui n'est plus aussi sûr qu'avant ? Si la loi changeait et que j'étais mobilisé, eh bien, sans doute que mon choix est déjà fait, en restant ici, dans mon pays.
Il a raison, hein, Maureen, ce jeune homme. Les règles du recrutement, elles peuvent changer à tout moment.
Oui, la mobilisation maintenant concerne les hommes à partir de 25 ans, mais on le sent bien, hein, personne ne se fait d'illusions, c'est inéluctable. Biden lui-même, rappelez-vous, sur la fin de son mandat, avait demandé à l'Ukraine, déjà à ce moment-là, de baisser l'âge de la mobilisation. Vous êtes parent, votre garçon a 23 ans, évidemment que vous comprenez qu'il sera bientôt potentiellement en danger.
Alors Maureen, parmi toutes les choses dont tu m'as parlé pour explorer la société ukrainienne dans cette première heure d'émission spéciale, combien 4 ans de guerre ont bouleversé la société ukrainienne, on voit à quel point ce bouleversement va se nicher aussi dans les recoins les plus intimes. Ici à Kiev et partout dans le pays, les mères célibataires sont de plus en plus nombreuses. Une guerre bouscule, une démographie empêche de se projeter vers un après aussi. Et là, j'ai l'impression que tu es presque en train de me parler de tes voisines, quoi.
Ah oui, des femmes célibataires, j'en compte évidemment parmi mes voisines, parmi mes amis. C'est vraiment une génération de femmes tout entière qui se fait littéralement baffer par la guerre.
Parce que celle que vous allez rencontrer maintenant s'appelle Alina. Et c'est une jeune femme à peine 22 ans. Elle s'accroche à l'idée que son mari est prisonnier, donc pas mort. Sa fille s'appelle Emma. Elle a à peine 2 ans et n'a jamais rencontré son père. Elle est littéralement bloquée dans sa vie. Alina, elle nous a reçus chez elle avec la petite Emma dans les bras.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle.
Pourquoi t'es prête?
Avant 2022, il passait son service militaire obligatoire. En 2022, quand la grande invasion a commencé, il a signé un contrat. Mais c'était un contrat pour rester dans l'arrière-garde. Il disait « Non, mais t'inquiète pas, je vais pas partir, je serai là. » Mais mi-décembre 2023, il m'a dit qu'il allait partir en mission dans la région de Dnipro. Il m'a pas dit qu'il sera dans la région de Donetsk, donc je savais pas où il allait. Et depuis le 1er février 2024, il est officiellement disparu.
Disparu, prisonnier, qu'est-ce que vous avez comme information? Qu'est-ce qu'on sait dans ces cas-là quand on est les familles?
Depuis le 1er février 2024, il était officiellement porté disparu. Mais au mois de mars, le 17 mars, le centre de coordination a changé son statut pour en captivité. Nous avons une information. En novembre 2025,
il n'y avait pas d'infos où il se trouvait. On garde espoir parce qu'il y a des petits éléments qui nous indiquent qu'il devrait être vivant.
Pardon de vous poser la question, mais j'entends ce que vous dites. Vous vous persuadez qu'il est vivant. J'imagine que vous avez dans un coin de votre tête quelque chose qui vous dit « si ça se trouve, mon mari est mort ». Au fond de vous, vous le savez, ça. Et je me demande comment on fait pour batailler à l'intérieur de soi avec ces deux idées-là.
Moi, je crois vraiment qu'il est vivant. J'imagine souvent comment il rentre de captivité, comment on les rencontre, que ce sera un très beau moment ensemble. Et quand la petite, elle regarde par exemple des dessins animés, elle peut juste s'asseoir et dire « Ah, papa, je t'aime beaucoup » et tout. Elle l'a jamais vu, mais elle l'aime. Elle pense à lui.
France Inter, le 18-20 en direct de Kiev, édition spéciale.
Maureen, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore ensemble dans cette société civile bouleversée par 4 ans de guerre. C'est le scandale tout récent de corruption. Et quand je dis tout récent, c'était pas ce dimanche-là, mais enfin, c'était dimanche dernier. Donc, l'ancien ministre de l'énergie, en pleine vague de froid, quand même, arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir.
Oui, l'opération Midas, c'est cet énorme scandale de corruption, un coup de filet qui touche les poches des plus proches de Zelensky. Le président a dû se défaire de celui qui était son plus proche collaborateur également. Ce scandale a fait beaucoup de bruit à l'étranger, ici aussi. Mais disons que pour les Ukrainiens, c'est malheureusement tout sauf une surprise. L'Ukraine souffre de corruption endémique. Ici, tout le monde le subit.
Donc ça veut dire que rien de neuf sous le soleil, ça veut dire que c'est pas de nature à décourager les Ukrainiens dans le conflit.
Je pense pas, les Ukrainiens me le disent, on a deux ennemis, la Russie et la corruption. En fait, ça va de pair. La corruption, c'est aussi un héritage de l'Union soviétique. Lutter contre la corruption, lutter contre l'invasion, c'est deux choses qui doivent vraiment se faire en parallèle. L'Ukraine tente d'arracher son indépendance ainsi millimètre par millimètre. Elle tente de se défaire de ce comportement mafieux qui ont aussi été nourris durant cette histoire commune. Mais il faut voir les choses aussi ainsi, je pense. Il y a quelques années, ce scandale n'aurait sans doute jamais été révélé. Le ministre de l'énergie aurait passé la frontière sans problème. Le travail à faire est certes dantesque, franchement souvent, parfois même désespérant, mais l'Ukraine fait des progrès et ce, en pleine guerre.
Et ce qu'il faut dire aussi, justement, c'est que en pleine guerre et cet été, une loi est passée qui aurait permis à l'État de prendre le contrôle, en gros, sur les agences indépendantes qui sont chargées de lutter contre la corruption. Cette loi promulguée a duré 9 jours parce que la société civile a manifesté, de très jeunes gens, la seule manifestation en temps de guerre contre le pouvoir depuis 4 ans, parce que théoriquement, d'ailleurs, sous loi martiale, c'est interdit. Preuve que la société civile a quand même du pouvoir. Ulyana a 19 ans à peine et elle y était à cette manif.
La corruption en Ukraine s'est infiltrée depuis le tout début de l'indépendance. Je pense que avec le banditisme, on a eu des premiers, des racines de tout ça, ce qu'on a maintenant. Et cela me fait mal, bien sûr, mais je crois que cela changera. Mais moi et mes amis, on était convaincus qu'on pourrait changer quelque chose et on a joué un rôle assez important. Et du coup, on est plus optimiste maintenant et on sait qu'on pourrait avancer le pays dans une bonne direction. J'ai des doutes, bien évidemment, tout le temps, il y a beaucoup de mais je suis plutôt positive. J'ai un certain
optimisme. Allez, on arrive doucement à la conclusion de la première partie de cette émission spéciale après 4 ans de guerre en Ukraine. Et le thème autour duquel, Maureen, nous tournons depuis le début, c'est comment faire en sorte que la société ukrainienne, aussi courageuse soit-elle, n'explose pas ou n'implose pas alors que Poutine pousse le pays à capituler de fatigue. L'année dernière, l'écrivain Artem Chapey avait cette crainte, une société fracturée entre ceux qui font la guerre et les autres. Il l'a dit dans un texte extrêmement fort, il craignait même que les Ukrainiens ne parlent plus un langage commun. Et donc on a voulu le rencontrer pour lui demander où il en était, justement. Eh bien, après cet hiver très rude, alors qu'aucun signe de paix n'est tangible, il va mieux, Artem Chapey.
Comparé à il y a un an, notre société est bien plus en forme. Je me souviens qu'il y a 3 ans, j'avais le sentiment que nous étions sur le point, non pas de nous effondrer, mais de voir notre société se couper en deux, entre ceux qui se battent et ceux qui se sont enfuis. Aujourd'hui, je suis plus optimiste. Je me considère toujours comme un civil forcé à être dans l'armée. Je pense que ça ne changera jamais. J'attends avec impatience le moment où je serai démobilisé. Mais pas par des moyens détournés. Je veux être démobilisé en même temps que tout le monde. Je ne cherche aucune solution pour moi tout seul. Je pense qu'il est très important aujourd'hui que l'Ukraine ressente cette solidarité. Et pour moi personnellement, de sentir que je n'ai pas abandonné la société ukrainienne, que je suis resté avec tout le monde.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes » et cette guerre est faite de gens ordinaires comme vous qui portent des mitraillettes. Vous, vous êtes engagé, vous l'avez dit, parce que vous vouliez pouvoir regarder votre pays en face, mais regarder aussi vos enfants en face. Est-ce que vous avez l'impression que ce dilemme-là, quand même, transpire encore dans la société ukrainienne ?
Oui, je pense que la plupart des gens dans l'armée ont été confrontés au même dilemme que moi. D'un côté, la plupart d'entre nous ont une famille, et de l'autre, nous ne voulions pas que nos familles soient exposées au danger de l'occupation. Je continue à penser que l'occupation est la pire chose qui puisse arriver. L'Ukraine a déjà été occupée par le passé. On sait tous que l'occupation est plus effrayante que le combat, même si le combat prend beaucoup de temps et fait de nombreuses victimes.
On a l'impression que, en discutant avec des gens, en parlant avec vous, que vous vivez dans un pays, au fond, qui est un peu torturé de l'intérieur. Il y a ce que vous dites, une vraie solidarité qui est vraiment clair. Et puis il y a aussi la culpabilité, parfois peut-être la haine, la peur, tout ça se côtoie et peut-être se mélange d'un jour à l'autre.
Exactement. Et je me suis mis à lire des livres de psychologie. Et ils expliquent que, quoi que vous fassiez, vous sentez toujours que vous auriez pu ou auriez dû faire plus. Et c'est une règle universelle. Nous sommes aujourd'hui un pays qui vit traumatisé en permanence. Et tous ces sentiments que nous éprouvons sont très courants chez les personnes traumatisées. Quand la guerre a commencé, nous sommes passés par toutes les étapes habituelles du deuil. D'abord le déni, ce n'est pas possible dans l'Europe du 21e siècle. Ensuite la colère, puis le marchandage. D'accord, je serai dans l'armée pour 3 ans, pas plus. Ensuite la dépression est arrivée quand ça n'a pas marché. Et maintenant je pense que nous arrivons à l'acceptation. C'est à ça que ressemble notre vie. Comme je le disais, je sens que même ceux qui se cachaient auparavant essaient maintenant de trouver leur place. Et je vois par exemple de plus en plus de femmes s'engager volontairement.
Ce que ça veut dire aussi, Artem, c'est que vous avez intégré le fait que la guerre va durer longtemps. Vous vous dites, de toute façon, si ça se trouve, on est parti pour encore 3 ans, encore 6 ans, encore 10 ans.
Je le crois, oui. Malheureusement, on n'a aucune idée du moment où tout ça finira. Mais nous sentons aujourd'hui que la Russie n'est pas tellement plus forte que nous tant que nous sommes soutenus par l'Europe. Il y a autre chose qui a changé. Nous avons compris que malgré le changement de gouvernement, nous ne dépendons pas tant que ça des États-Unis. Aujourd'hui, en grande partie, nous dépendons de la solidarité de l'Union européenne.
Et pour ça, je voudrais le dire en français que je voudrais remercier le peuple français et les Européens pour la solidarité, pour le soutien. C'est très important pour nous. We want peace as soon as possible. We want peace all the time.
Nous voulons la paix le plus vite possible. Nous la voulons tout le temps. Mais je pense que nous avons dépassé le stade de la dépression pour accepter que nous n'avons pas d'autre choix que de tenir. Ce n'est pas que nous sommes des héros, c'est que nous n'avons pas le choix. Regardez, vous êtes ici, vous voyez l'hiver que nous avons traversé. Moi, j'ai le sentiment que la solidarité se renforce aussi parce que Poutine a réalisé qu'il ne pouvait pas faire d'avancées majeures sur le champ de bataille, dans le Donbass ou dans le sud. Il a donc commencé à bombarder les civils et ça a eu pour effet de mobiliser tout le monde. D'accord, vous êtes un soldat, oui, mais votre famille souffre aussi de n'avoir ni chauffage ni électricité. En ce moment, l'école de mes enfants est fermée parce que la Russie a bombardé toutes les installations énergétiques sur la rive gauche de Kiev. Cela nous fait ressentir que nous souffrons tous à cause de la Russie. Et on la déteste tous, pour des générations. Poutine a fait une énorme erreur. Il a beaucoup parlé de l'OTAN, mais ce n'est pas le sujet. Il voulait juste reconquérir son ancienne colonie qui commençait à vivre mieux que la Russie.
Vous dites évidemment que tout le monde veut la paix. Est-ce que vous dites aussi évidemment que tout le monde veut la victoire? Est-ce qu'il y a une différence entre paix et victoire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire victoire?
Ideally, for me, victory would be seeing Putin in the court in Hague.
Idéalement, pour moi, la victoire serait de voir Poutine devant le tribunal de La Haye, puis en prison pour toujours. Mais nous comprenons que ce n'est pas réaliste. Pour nous, en fait, j'ai le sentiment que ce n'est pas une question de territoire. Nous savons que, un, beaucoup de territoires conquis par Poutine sont détruits. Deux, comme le font tous les empires, la population locale est remplacée. De plus en plus de Russes arrivent à Mariupol, nous le savons. Donc les territoires, je n'y crois pas. En revanche, nous voulons que la Russie soit incapable de nous attaquer. Nous, et qui que ce soit d'autre, pendant au moins une génération. Et nous espérons vraiment que Poutine mourra bientôt, pour que les élites russes commencent à s'entre-dévorer. C'est notre espoir.
Maureen, il nous a vraiment beaucoup impressionné, ce garçon. Est-ce qu'il t'a fait le même effet?
Tu me demandais ce qui me faisait rester en Ukraine. Plus que jamais, je vois toutes les souffrances, les tristesses, l'horreur de la guerre, évidemment. Mais je vois aussi une forme de naissance, paradoxalement. Et puis une sorte d'alignement. Ces gens qui disent « Non, définitivement, je ne vivrai pas sous l'autoritarisme russe. » Je vois ces Ukrainiens qui me soufflent aussi. On ne sait pas si on s'en sortira. Mais si on doit mourir, on mourra, mais on mourra libre. C'est très impressionnant d'entendre ça. Ils disent ceci, on ne trahira pas nos convictions, démocratiques notamment, par les temps qui courent. C'est très impressionnant et c'est inspirant.
Maureen, merci beaucoup. Merci tellement de nous avoir guidés et d'avoir partagé ta connaissance de ce pays dans cette première heure. Pour que cette conversation se poursuive avec vous tous qui nous écoutez, ton podcast s'appelle Carnet d'Ukraine. Tu nous prends par la main, tu nous interpelles à la première personne. Tu le fais pour nos amis suivants de la RTS, mais il est disponible sur la plateforme Radio France, ce podcast. Grand merci aussi à Maria Homkovitch, la voix ukrainienne que vous avez entendue derrière chaque reportage. C'est elle aussi qui nous a ouvert son carnet d'adresses. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment après le journal pour la suite de cette émission spéciale. À tout de suite.